Europe 1. Europe 1.
C'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï.
Cédric Sueur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en éthologie et primatologie à l'Université de Strasbourg et vous publiez chez Odile Jacob les péripéties d'un primatologue qui raconte vos nombreuses recherches sur le terrain en Afrique du Sud, au Malawi, au Népal, au Japon. C'est aussi truculent d'être un primatologue sur le terrain que d'être un anthropologue sur le terrain parce qu'il y a une vaste littérature sur ce sujet.
Oui, et les deux métiers se ressemblent beaucoup, hein, que ce soit pour aller sur le terrain ou que ce soit sur les sujets de recherche, on se complète. Parce que souvent, on est aussi appelé anthropologue biologiste, on fait de l'anthropologie biologique, on essaye de comprendre un peu les origines de l'humanité via l'étude des primates non humains.
Alors, les macaques, par exemple, prennent des décisions collectives, nous dites-vous. Ils pratiquent une forme de vote pour décider dans quelle direction aller, par exemple. Comment ils s'y prennent?
C'est même pas une forme de vote, c'est carrément du vote, sauf qu'ils sont pas à main levée, en fait. Quand ils décident de se diriger dans une direction, ils vont diriger leur corps dans cette direction et ils vont se retourner pour signifier qu'ils veulent se déplacer dans cette direction. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux humains où nous on n'a qu'une seule voix, en fait ils ont différentes voix en fonction de leur motivation. Et par exemple, s'ils se déplacent 10 fois, ou s'ils font 10 petits déplacements, c'est comme s'ils signifiaient 10 voix ou qu'ils avaient vraiment une grande motivation à se déplacer dans cette direction. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on n'est pas juste à un comptage de personnes à droite ou à gauche, mais vraiment à un comptage du nombre de voix à droite ou à gauche, plus dans la démocratie participative.
À partir du moment où il y en a un qui se déplace dans cette direction-là, alors que ce soit d'un pas ou de 10 pas pour signifier à quel point il a envie d'aller dans cette direction-là, les autres vont le rejoindre ou au contraire manifester leur désir d'aller dans une autre direction.
Tout à fait, oui. Il peut y avoir... On n'a jamais vu plus de 3 directions, mais généralement 2 directions chez les macaques. Et c'est un processus qui va durer à peu près une demi-heure. Et au bout de cette demi-heure, l'ensemble des membres du groupe va se diriger dans la direction où il y a le plus de voix qui ont été émises.
Vous dites qu'il est arrivé qu'il n'y ait pas de majorité. Dans ces cas-là, le groupe se scinde en deux.
Oui, 2 fois. Alors c'est très rare, hein, sur le nombre de fois où on a pu observer ces votes. Il est arrivé 2 fois où on avait un nombre égal de chaque côté et le groupe s'est scindé du coup en 2.
Oui, mais c'est la vraie démocratie.
C'est de la vraie démocratie.
et après la publication de vos travaux, à l'époque, d'autres ont rapporté la même chose en ce qui concerne les bisons d'Europe, les sirocates, les licaons qui sont des canidés d'Afrique, les loups aussi votent. Au fond, les animaux votent quand même, dans un certain nombre de cas. Hein.
Tous les animaux qui sont sociaux, il n'y a pas un individu qui impose sa décision. L'ensemble des membres du groupe doit pouvoir vivre au sein de ce groupe, se nourrir, satisfaire leurs besoins. Et de ce fait, il y a eu des processus de décision collective, des systèmes de vote qui se sont mis en place un peu à droite à gauche. Souvent, c'est le corps qui permet d'indiquer, comme chez les bisons. Chez les carnivores sociaux, c'est plus intéressant. Chez les licaons, mon collègue Andrew King a pu montrer que c'était le nombre d'éternuements qui montrait le vote. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et chez d'autres espèces, on va avoir une cérémonie de groupe où, par exemple, chez le loup, il y a vraiment ce processus de jeu avant le départ qui permet d'indiquer qu'ils veulent se déplacer.
Néanmoins, chez les babouins, vous dites qu'il y a un certain goût pour la dictature, là.
Alors, il y a plus ou moins, malgré le fait qu'il y ait cette nécessité de satisfaire les besoins des autres individus, d'autres individus vont pouvoir être plus ou moins leaders, parfois à 90%. Ça, c'est pour les décisions collectives. Par contre, il y a tout le système hiérarchique derrière, basé sur les agressions, qui mange en premier, qui va boire en premier. Et là, par contre, il y a un système de dominance avec un individu qui peut imposer le fait qu'il veuille manger à ce moment-là ou qu'il veuille boire à ce moment-là. Ouais.
Cédric Sueur, dans les péripéties d'un primatologue, vous racontez qu'il y a des échanges chez les singes, presque une économie. Ils savent augmenter le prix des échanges en plus.
Oui, alors ça a été le but de la thèse de ma collègue Marie Pellet, qui a essayé de comprendre ça. Elle a mis en place des protocoles expérimentaux où elle a créé de la monnaie de singes. Elle a utilisé des petits objets et elle a pu échanger ces petits objets avec un singe. Quand le singe lui a échangé cet objet, il avait un morceau de nourriture. Avec un autre singe, elle a fait également ceci. Et ce qu'elle a pu montrer chez les orang-outans, ça a marché, ça fonctionnait que chez les orang-outans, c'est que quand elle les laissait à part et qu'ils avaient des objets l'un qui avaient une valeur pour les uns les autres, ils se mettaient à échanger ces objets pour ensuite pouvoir les échanger avec elle. Donc ils comprenaient ce système de monnaie. Et ça, ça a été vérifié sur le terrain avec les macaques à Bali, où ils ont appris eux-mêmes à échanger, en fait, et surtout à voler. Les macaques à Bali se sont mis à voler des objets sur les touristes.
Beaucoup.
Et en fait, ils se sont vite aperçus qu'il y avait certains objets qui avaient plus de valeur. S'ils attrapaient une bouteille d'eau, on laissait la bouteille d'eau. Ils n'avaient pas en retour la nourriture. Mais s'ils volaient des lunettes ou un téléphone portable, les gardiens du parc commençaient à échanger un petit morceau de nourriture.
Oui, ils disaient rends-le, et voilà. ils lui donnaient à manger en échange.
Ils ont vite compris aussi la valeur de ceci, et ils ont commencé à augmenter le prix. Au début, c'était juste un petit morceau de banane, et à la fin, c'était 3 melons entiers. Donc les gardiens ont dû dire on arrête là, parce que ça devient n'importe quoi. Et je pense que quand ils ont décidé d'arrêter, quelques touristes se sont vus voler leurs lunettes et leurs téléphones sans pouvoir les récupérer.
On fait une pause. Cédric Sieur, vous avez encore beaucoup d'histoires à nous raconter.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadoui.
Nous sommes ce matin avec Cédric Sieur, qui est enseignant-chercheur en éthologie et primatologie à l'Université de Strasbourg et qui publie chez Odile Jacob « Les péripéties d'un primatologue ». Dans ce livre, vous racontez que les macaques ont des pratiques culturelles. Ils se baignent dans les sources d'eau chaude, ils jouent avec des cailloux. Vous dites même qu'ils s'amusent à faire du rodéo sur des daims. Du daim, D-A-I-M-S. Hein.
Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que c'est vrai que quand on pense culture chez les animaux, déjà, il faut savoir penser culture chez les animaux. C'est pas quelque chose qui nous vient forcément à l'esprit. On a tout de suite en tête Jane Goodall avec les chimpanzés. Et ça a été montré dans les années 50-60. Mais avant, Kinji Manichi a pu montrer ceci chez les macaques. Le tout premier comportement qu'il a appelé culturel ou préculturel, c'était le lavage de patates douces. Et ensuite, avec ses étudiants, il a commencé à ratisser le Japon et étudier différents groupes, et il a pu mettre en évidence différents comportements culturels, dont le bain dans les sources d'eau chaude. Il faut savoir qu'il y a des sources d'eau chaude, c'est onsen, partout au Japon, mais il n'y a qu'un seul endroit où les macaques s'y baignent.
Et pourquoi, on le sait ?
Alors, c'est intéressant, ils ont observé les humains dans les années 60 et ils ont reproduit ce comportement. Et du coup, on a dû faire un onsen pour les macaques spécifiquement, parce que sinon, ils venaient se baigner avec les humains et c'est pas très
hygiénique. Voilà. Mais là, on est dans le pur divertissement. Hein. C'est comme quand ils jouent avec des cailloux ou qu'ils font du rodéo sur les daims. On est dans le divertissement.
Alors, c'est ça qui est intéressant avec les comportements culturels, c'est que ça n'a pas forcément de fonction. Souvent, quand on est biologiste, on pense à la survie, à la reproduction, à le fait que ça puisse apporter plus de nourriture. Il y a certains comportements culturels qui sont fonctionnels. Le fait de manger des poissons morts sur certaines plages, il n'y a que certains groupes qui ont montré ceci. Le fait aussi d'utiliser des cailloux pour casser des coquillages ou d'aller manger des coquillages. Mais il y a d'autres comportements qui ne sont pas du tout fonctionnels. Ceux qui se baignent dans les onsen au même endroit, ils font aussi des boules de neige pour jouer avec des boules de neige, voilà. Comme des enfants le feraient.
Donc on peut parler de divertissement. Bon, pur, oui. Exactement comme les humains. Vous avez également étudié au Népal les réseaux sociaux chez les yaks. Alors qu'est-ce que vous entendez par réseaux sociaux ?
Oui, alors quand on pense à réseaux sociaux, on pense à Facebook ou Twitter, mais là c'est pas du tout ça. En fait, quand des individus vivent dans un groupe, ils sont à proximité, ils vont échanger des interactions, du toilettage... parfois des agressions, et moi c'est ça que je regarde, ces comportements. Et avec l'ensemble des comportements, je construis un réseau qui me permet de voir comment le groupe est structuré en fonction des individus dominants, âgés, en fonction du sexe. Et ce qui est intéressant avec les ongulés, que j'ai beaucoup étudié également, c'est essayer de voir comment la domestication influence ces réseaux sociaux, et également les comportements sociaux. Donc j'ai étudié des Highland Cattle, des vaches écossaises, des bisons, des vaches et des yaks. Et les yaks, ce qui est aussi intéressant, c'est que les Népalais, là-bas, qui les gardent, utilisent ces réseaux sociaux ou essayent de les modifier pour augmenter la cohésion du groupe. Parce que les yaks vivent en petites unités de 5 individus, alors que leurs troupeaux font 60. Donc s'ils veulent pas qu'ils se dispersent à droite à gauche et qu'ils se fassent tuer par la panthère des neiges, il faut garder cette cohésion. Donc le soir, ils vont mettre deux jeunes l'un à côté de l'autre. Les mères vont garder ces jeunes Et en fait, ces mères sont spécifiquement mises ensemble pour garder la cohésion du groupe. Et ça, c'est très intéressant de voir comment ils utilisent l'éthologie dans leur élevage et l'agriculture népalaise.
Vous avez parlé de la panthère des neiges. Vous avez eu la chance de la rencontrer au Népal. C'est l'une des espèces animales les plus difficiles à observer. Vous l'avez rencontrée le premier jour. C'est quand même extraordinaire. Vous en avez rapporté 500 photos, je crois.
Oui, c'est ça. Tout à fait, oui. J'avais mis plus de 12 heures pour faire 60 km. On s'était embourbé pendant 6 heures. J'avais très mal dormi. Le matin, je m'étais réveillé à Manang, à 3500 mètres d'altitude, et je cherchais mon doctorant et je l'ai vu arriver. Et il était un peu affolé, excité, en me disant « On a vu la panthère des neiges, est-ce que tu veux venir avec moi la suivre ?» Et forcément, j'ai dit oui. Donc on a commencé à aller le long de la rivière où il l'avait vu, on a vu des traces, déjà ça c'était super, et ensuite on a vu des barales, des chèvres. Au Népal, on s'est dit que ça pouvait être un endroit où la panthère des neiges chassait, et on s'est posé justement sur une ligne de crête pour observer une autre ligne de crête. Et un peu comme Vincent Munier, du coup j'ai photographié pour essayer de voir s'il y avait des taches et si c'était une panthère des neiges, et à un moment donné elle était là, elle nous regardait. Et nous, on l'avait pas vu, c'est en agrandissant la photo que j'ai pu la voir. Et du coup, on est resté 2 heures à pouvoir l'observer. Et on l'a encore vu le lendemain, oui.
Qu'a-t-elle de si fascinant, alors? À part le fait qu'elle est très rare et qu'il est difficile de la voir.
Mais je pense que elle est rare parce que justement, elle est cryptique. C'est-à-dire qu'elle est là, mais contrairement à d'autres animaux, elle se cache, elle est silencieuse. Elle peut être juste à côté de vous sans que vous puissiez la voir. Et je pense que ce côté fantomatique, c'est ça qui fait c'est vraiment un graal de pouvoir la voir. Oui.
Observer les animaux, est-ce que ça permet de mieux comprendre les humains, Cédric Scheuer ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé ma thèse, j'essayais d'étudier les animaux, mais pour montrer que les animaux étaient très proches, plus proches des humains dans leur intelligence. Et finalement, au fur et à mesure des années d'études que j'ai faites, je me suis rendu compte que c'était les humains qui étaient des animaux. On est des animaux, mais moi, en tout cas, on a pu le montrer à travers les différents comportements. Ça permet de mieux comprendre les processus biologiques chez l'humain, de pouvoir mieux les anticiper, de pouvoir aussi comprendre pourquoi parfois il y a des blocages. C'est souvent quelque chose qu'on oublie. On pense que l'humain est juste culturel, et en fait il est aussi biologique. Hein. Il y a un processus d'évolution derrière de millions et des millions d'années. Et en étudiant les animaux et leurs comportements, on peut mieux comprendre justement l'humain.
Mais ce processus d'évolution qui a pris des millions et des millions d'années, est-ce qu'on peut le réduire à un instinct? Est-ce qu'il y a un instinct humain?
Alors, je dirais pas qu'il y a un instinct humain, mais en tout cas, il peut y avoir certains comportements qui sont avec une plus grande base instinctive que d'autres. Et ça, c'est intéressant. On peut prendre des exemples chez les petits, par exemple. Vous posez un bébé qui vient de naître, il va monter directement sur le sein de sa mère en sentant les phéromones. Et ça, l'odeur chez les humains, c'est quelque chose qu'on a assez oublié, parce qu'on pense être très visuel, et d'ailleurs, on est très visuel et très auditif, mais... Le coup de foudre qu'on a l'impression d'avoir, c'est on pense que ça peut être un échange de phéromones qu'il y a entre deux personnes et ils s'en rendent pas compte. J'ai entendu il y a pas longtemps que les personnes qui sont devenues anosmiques à cause du Covid-19, c'est-à-dire qui n'arrivent plus à sentir, ont des problèmes sociaux. Parce qu'en fait, ils n'arrivent plus forcément à déterminer les odeurs des personnes qui sont en face d'elles, si elles sont stressées ou pas. Il y a le côté visuel, mais il y a aussi un côté... olfactif qui est absent, et ça c'est intéressant.
Vous voulez dire qu'on a l'impression qu'on ne se sert pas de notre nez au fond, que
mais,
c'est notre...
Et pourtant le nez c'est la mémoire la plus... c'est ce qui apporte le plus d'émotions au niveau de la mémoire, et c'est ce qui permet du coup de ressentir et de se rappeler le plus de choses.
Il y a un chapitre dans votre livre qui est consacré à cet orang-outan qui est devenu dessinateur. Il n'est pas le premier, hein. D'autres singes avant lui sont bien dessinés. Celui-ci dessine particulièrement bien, vos yeux? Il s'appelle Moïse, hein, je crois.
Molly, c'est une femelle, elle s'appelle Molly. Et en fait, elle était avec 4 autres orang-outans. Et comparée aux autres orang-outans qu'il y avait avec elle, elle dessinait beaucoup mieux. Dans le sens où ses dessins étaient beaucoup plus complexes et beaucoup plus prononcés. C'est-à-dire qu'elle remplissait vraiment la feuille de différentes formes et de différentes couleurs.
Avec des feutres, hein?
Avec des feutres, oui, on lui donnait 12 stylos, toujours les mêmes. Et du coup, elle a dessiné comme ça pendant 10 ans. Elle a produit à peu près 1300 dessins, alors que les 4 autres ont à peine fait 200 dessins pendant ces 10 ans. Ce qui montre vraiment sa motivation à dessiner. Et ce qu'on a pu montrer, alors, de manière... en utilisant l'éthologie classique, c'est-à-dire en essayant de voir de nous-mêmes les différentes couleurs, le remplissage dans la feuille, mais aussi en utilisant l'intelligence artificielle, c'est qu'elle changeait de couleur ou qu'elle pouvait changer de forme en fonction des saisons. Donc il y avait vraiment quelque chose derrière.
Comme les impressionnistes, au fond.
Oui, et ces tableaux ressemblent d'ailleurs dans l'utilisation des couleurs, parfois beaucoup à un tableau impressionniste.
Merci Cédric Sueur. Je renvoie à la lecture de votre livre « Les péripéties d'un primatologue ». Ça vient de paraître chez Odile Jacob.
Merci beaucoup.